RFI 23h, à Paris 22h, en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Charlotte de Rouen.
Joël Le Squarnec reconnaît avoir commis des actes odieux. Cet ancien chirurgien comparaît depuis aujourd'hui devant la cour criminelle du Morbihan pour viol et agression sexuelle sur près de 300 patients. La plupart étaient mineurs au moment des faits. Après l'attentat de Mulhouse, l'exécutif met la pression sur l'Algérie. Alger, qui avait refusé à 10 reprises de récupérer l'auteur présumé de l'attaque au couteau qui a fait un mort et plusieurs blessés samedi. 6 mois de prison requis contre l'influenceur algérien Doualem, jugé pour provocation à commettre un crime ou un délit. La diplomatie française qui s'active sur le dossier ukrainien. Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump ce lundi à Washington et l'ancien Premier ministre Gabriel Attal était à Kiev avec à chaque fois un objectif: que l'Europe ait sa place dans les futures négociations de paix. Le consulat de Russie à Marseille pris pour cible, des jets de bouteilles suivis de détonations qui n'ont pas fait de blessés. Et puis les dépenses liées à l'aide publique au développement passées à la loupe, l'exécutif a décidé de créer une commission d'évaluation.
RFI.
C'est un procès hors norme qui s'est ouvert ce lundi devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes. Sans doute la plus grande affaire de pédocriminalité jugée en France, l'affaire Le Squarnec. Cet ancien chirurgien est accusé de multiples viols et agressions sexuelles sur 300 jeunes patients mineurs entre la fin des années 80 et 2014 dans plusieurs hôpitaux de France où il a exercé son procès. C'est donc ouvert cet après-midi devant la cour criminelle du Morbihan, un procès évidemment très attendu par les victimes comme Amélie Lévesque. Elle était présente ce matin, aujourd'hui à l'audience.
Personnellement, ça a eu beaucoup d'impact. Je me suis séparée de mon mari, il y a eu beaucoup de choses. Pour mes enfants, ça a été très difficile. J'ai complètement changé de vie et je suis une personne un peu différente aussi. Mais je suis aussi beaucoup plus combative. La thérapie, ça aide à se connaître. Et voilà, et lui sera droit dans son box. Mais moi, je vais m'en sortir.
Les victimes de l'ancien chirurgien gardent peu de souvenirs des faits. Beaucoup étaient sous anesthésie lorsqu'elles ont été agressées. Baptiste Coulon, vous avez suivi cette première journée d'audience à Vannes, marquée par les premiers mots de l'accusé.
Si je comparais devant vous, c'est parce que j'ai commis des actes odieux dont je dois assumer la responsabilité. C'est avec une voix posée, presque sourde, que Joël Le Squarnec livre ses premiers mots à la cour. Veste noire, lunettes rectangulaires, cheveux blancs, il était apparu le visage fermé à l'ouverture de l'audience ce midi. Mais l'un de ses avocats avait prévenu, l'accusé ne cherche pas à se défausser de ses responsabilités. À 300 mètres de la salle d'audience, trop petite pour toutes les accueillir, les victimes observent l'accusé sur un écran dans un amphithéâtre. Certaines se tiennent la tête entre leurs mains. Les bancs sont clairsemés, toutes ne sont pas là. Que valent ces premiers mots de l'accusé? Sur le fond, ils ne sont pas si différents de ceux qu'il avait eus face aux enquêteurs. Mais à l'époque, les psychiatres notamment avaient douté de la sincérité de ses remords, qualifiant Joël Le Squarnec de pervers narcissique sans compassion à l'égard des victimes. Alors prudence et humilité. Humilité, c'est le mot choisi par l'avocat général dans sa prise de parole aux airs de mise au point à l'ouverture des débat aujourd'hui. Nous jugeons un homme, mais ce procès est avant tout adressé aux victimes.
Le compte-rendu d'audience signé Baptiste Coulon. Cet hommage ce soir à Mulhouse, à Lino Souza Loureiro, cet homme tué samedi lors de l'attaque au couteau. Des centaines de personnes se sont réunies dans le centre-ville. Unis, nous ferons face, a assuré la maire de la ville, Michel Lutz. L'affaire prend une tournure très politique. L'assaillant présumé est un Algérien en situation irrégulière en France, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Mais l'Algérie a refusé 10 fois de le reprendre, ce que le Premier ministre François Bayrou juge inacceptable.
L'assassin de Mulhouse, il avait été présenté 10 fois aux autorités algériennes pour que son pays d'origine accepte que nous le renvoyions chez lui. Et les 10 fois, la réponse a été non. Pour moi, c'est parfaitement clair, c'est inacceptable. Imaginez la situation si elle était inversée. Si l'Algérie voulait renvoyer chez nous des délinquants, des menaces, des assassins en puissance, et si nous disions non, Qu'est-ce que diraient les autorités algériennes ? Parce que j'insiste sur le fait que ça n'est pas une question du peuple algérien. C'est une question des autorités.
François Bayrou au micro de Victorien Villot, mais toujours concernant les relations entre Paris et Alger, deux influenceurs algériens étaient jugés aujourd'hui. Zazou Youssef a été condamné à 18 mois de prison par la justice française pour provocation au terrorisme pour des propos tenus sur le réseau social TikTok. Un autre influenceur comparaissait également aujourd'hui à Montpellier, Doualem. Lui a écopé de 6 mois de prison avec sursis. En cause, là aussi, une vidéo qui a circulé sur plusieurs réseaux sociaux et qui a failli donner lieu à son expulsion à Montpellier, Siam Spencer.
J'ai fait des bêtises, je me suis emportée et je regrette, souffle l'influenceur algérien Doualem à la barre, courbé, crâne rasé, appuyé sur une béquille. Il reconnaît avoir publié une vidéo sur le réseau social TikTok appelant à mettre une correction à un opposant au gouvernement algérien. Mais voilà, ça n'est pas cette publication, celle de Doualem, qui déclenche la machine médiatique et judiciaire, mais une nouvelle version mal traduite relayée sur le réseau social X par des comptes n'ayant rien à voir avec l'influenceur. C'est ce qu'explique son avocat, maître Jean-Baptiste Mousset.
Cette vidéo, elle fait l'objet d'un montage, vous l'avez compris. Elle a été tronquée de son contexte.
Au cœur des débats, une traduction, donc celle du mot « guécla » sur la vidéo tronquée. Le mot est traduit par un appel au meurtre, tandis que le prévenu, ainsi que des experts, la traduisent plutôt par « raclée » ou encore « correction ».
Ses propos, il ne s'est pas défaussé non plus. Il les a reconnus, une correction. Et pour lui, parce que c'est comme ça que sa mère lui parlait, la guette-là, c'est la fessée, c'est la correction.
Dans ses réquisitions, la procureure de la République met fin au débat. Il n'y a pas d'incitation à la haine, mais bien une provocation à commettre un crime. Les faits appellent à une sanction, mais en rapport avec un contexte. Autrement dit, le politique doit rester en dehors des portes du tribunal. Siam Spencer, Montpellier, RFI.
Et le jugement sera donné le 6 mars ce prochain à Montpellier.
24 heures en France.
Emmanuel Macron dit vouloir un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Le président français est à Washington pour évoquer le sort de l'Ukraine avec Donald Trump. Il a donné ce soir une conférence de presse aux côtés de son homologue américain. La paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine, a dit le chef de l'État français. L'ancien premier ministre Gabriel Attal, lui, était à Kiev aujourd'hui, député et président du groupe d'amitié parlementaire France-Ukraine. Il plaide pour que l'Europe ait sa place dans les futures négociations de paix.
On ne doit pas supplier pour être autour de la table. On doit se faire notre place autour de la table. C'est très différent. Et c'est vrai que dans les déclarations qu'on a pu entendre ces dernières semaines, on a pu avoir le sentiment finalement qu'on était là à supplier pour être autour de la table. Non, être autour de la table, ça s'impose. Et donc il faut assumer ce rapport de force et assumer de s'imposer autour de la table. Et pour ça, il faut en faire plus dès maintenant, sans attendre. Il faut montrer que l'Ukraine pourra compter sur nous, quelles que soient les décisions qui sont prises ailleurs et notamment par les États-Unis. C'est pour ça qu'il faut accroître, amplifier notre soutien à l'Ukraine, notamment notre soutien militaire. Et on accueille très positivement les déclarations qui ont été faites par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et par le président du Conseil européen, qui ont déclaré que le 6 mars prochain, à l'occasion du Conseil européen qui est organisé, de nouvelles annonces seraient faites pour soutenir militairement l'Ukraine, y compris sa base de défense ici en Ukraine.
L'ancien Premier ministre français Gabriel Attal, aujourd'hui député sur la même ligne donc qu'Emmanuel Macron sur le soutien à apporter à l'Ukraine dans ses négociations. À Marseille, le consulat général de Russie visé ce matin par 3 engins explosifs. Les autorités russes dénoncent une attaque terroriste. La diplomatie française condamne. Récit de notre correspondante dans la cité phocéenne, Sophie Bourlet.
Selon la préfecture de police, ce sont 3 engins explosifs de fabrication artisanale qui ont été lancés dans le jardin du consulat général de Russie ce matin vers 8h. 3 bouteilles de soda en plastique de 50 centilitres, dont 2 ont explosé et généré des détonations. Il n'y a pas de victimes à déplorer. Le quartier, connu pour ses nombreuses ambassades, a été rapidement bouclé par la police. Les marins-pompiers de Marseille ainsi qu'une équipe de déminage étaient sur les lieux ce matin. Le personnel et le consul ont été confinés à l'intérieur du consulat une bonne partie de la matinée. Les résidus contenus dans les bouteilles ont été prélevés pour être analysés et la police judiciaire est saisie sous l'autorité du parquet de Marseille. Sophie Bourlet, Marseille, RFI.
Alors qu'aux États-Unis, le nouveau président américain a décidé de suspendre l'aide au développement en France, l'exécutif a créé une commission d'évaluation sur cette aide publique au développement, notamment sur l'AFD, l'agence qui gère cette aide. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a annoncé hier, Claire Fage.
Je viens de signer il y a quelques jours un décret qui instaure une commission d'évaluation de l'aide publique au développement, a déclaré Jean-Noël Barrot lors d'un entretien avec nos confrères d'Europe 1 et de CNews. Il s'agit, projet par projet, a-t-il précisé, de s'assurer systématiquement que ce que nous faisons est bien dans l'intérêt direct des Français ou indirect, parce que ces interventions de l'AFD, l'Agence française de développement, bénéficient aussi très largement à des entreprises françaises. Ces propos du ministre des Affaires étrangères ont été tenus le jour de la publication d'un dossier dans le JDD, l'hebdomadaire dominical détenu par Vincent Bolloré, où l'aide française au développement est qualifiée d'obscure, ubuesque ou obsédée par le genre. Et alors qu'un rapport parlementaire du député Rassemblement national, Guillaume Bigot, exige un moratoire sur cette aide qu'il juge illisible, coûteuse et peu efficace. Tout cela dans un contexte d'économie budgétaire, l'aide française au développement, 15 milliards d'euros l'an dernier, a déjà été rabotée de 2 milliards d'euros dans le budget qui vient d'être adopté. Et alors que Donald Trump a tout simplement gelé pour 3 mois l'aide américaine.
Précision signée Claire Fage. Gérard Depardieu, visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée, l'acteur est soupçonné de s'être fictivement domicilié en Belgique il y a une dizaine d'années. En décembre 2012, il avait annoncé son intention de quitter la France pour des raisons fiscales. Il voulait alors protester contre la taxation des grosses fortunes souhaitée par François Hollande à l'époque. Le parquet national financier s'est saisi du dossier. Cette enquête fait suite à plusieurs dénonciations de l'administration fiscale. RFI, 23h12 à Paris.
24h en France. Charlotte de Rouen.
Guajiro Chic, le paysan chic, c'est le titre du 14e et nouvel album de Raoul Paz, va y arriver, le plus français de tous les Cubains qui est rentré dans son pays il y a une quinzaine d'années après de longues années d'exil. Il a désormais choisi de vivre à la campagne. Il est l'invité d'Olivier Roger.
Yo no sabría caminar bien lejos, si no veo reflejo de tus ojos llenos.
Bonjour Raoul Paz.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très très bien, très bien.
Guajiro Chic, c'est le paysan chic, c'est le titre de votre nouvel album. Un titre qui me semble pas tout à fait anecdotique. Ce Guajiro Chic, c'est vous ou c'est Cuba?
En fait, pour moi vraiment, c'est la place que j'aimerais bien qu'il y a Cuba. La musique cubaine, c'est cette musique, grande musique cubaine qu'on connaît. Parfois, on se rend pas compte que ça vient toujours de la campagne. La campagne a une force énorme, comme pas mal des pays. La musique la plus connue aux États-Unis, c'est la country, au Mexique, c'est le corrido. Mais à Cuba, la musique campésine, elle est un peu oubliée. Donc je me sens, maintenant que j'habite en pleine campagne, et je me sens cet interlocuteur un peu entre cette musique des campagnes actuelles et le monde. C'est pour ça ce nom de Guajiro Chic.
Justement, cette musique de campagne, vous l'avez redécouverte en rentrant à Cuba? Ou alors, est-ce qu'elle a toujours été là de par votre héritage familial?
Ça a été toujours là parce que mes parents, surtout mon père, elle aimait beaucoup la musique de la campagne. Mais je me suis rendu compte d'un concert à l'Olympia. On ne trouvait pas une première partie. Mon producteur à l'époque, il m'a dit, tu sais, Bob Dylan, quand il est venu à l'Olympia, il n'y avait pas première partie, il a fait sa propre première partie. J'ai dit, ah, ça me va. Donc j'ai fait ma propre première partie. Et quand on m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire, j'ai dit, mais je vais faire la musique de la campagne naturellement. Et j'ai fait une première partie qui était très bien. C'était même mieux que mon concert après. Où j'ai chanté des chansons que j'écoutais quand j'étais enfant de la musique de la campagne. Donc elle était toujours à moi, mais je ne les savais pas vraiment. Et là, ces retours, pour moi, c'était important de revenir aux sources, de voir qui j'étais, qui étaient mes parents, la musique qu'ils écoutaient dans ces régions de l'île. Et c'était une redécouverte en même temps.
Yo pensé alejarme, pero me olvidé. Que poco decide siempre la razón. Yo no soy tan simple como te conté.
Alors justement, cette musique, Guajira, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce que cette musique est toujours vivante dans le patrimoine cubain? Est-ce qu'elle est au contraire en voie de disparition?
Elle est très vivante, mais elle est cachée. Et toute référence à la musique de la campagne à Cuba, c'est une référence avec des vieux codes, où les gens ils sont habillés de façon trop traditionnelle, Il parle d'une façon. Et ça, c'est dommage, parce que je crois qu'il y a une modernité dans la campagne. C'est la base de beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi la base à Cuba de la musique. Tous les grands groupes, tous les grands orchestres ou les grands interprètes du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, tout vient de la campagne.
Vous avez un immense respect pour cette campagne et pour les gens qui l'habitent. J'ai lu quelque part dans votre biographie, à un moment, vous dites ce sont les paysans sont capables de nous parler en alexandrin d'une problématique sociale. Ça, c'est extraordinaire. C'est vous avez un respect pour ces gens
énormément
chic, effectivement.
Oui, parce que finalement, ils sont les vrais chics. Ils sont rudes, ils travaillent dans la campagne, ils ont des mains impressionnantes et tout ça. Comme j'ai dit, ils peuvent contrôler un taureau. Et en même temps, ils se mettent après à la guitare, ils sortent des mélodies hallucinantes et ils improvisent avec une poésie qui savent même pas l'écrire. Quand ils l'écrivent, ils font beaucoup de fautes, mais ils sont capables d'aller chercher une poésie hallucinante. Et j'ai compris que je viens de là, en fait. Tout mon intérêt pour la poésie, tout mon intérêt pour la mélodie, elle vient de là. Et ça, je ne le savais pas, je ne l'avais pas compris. Mais elle vient de là, cette façon simple, mais très belle de faire les choses.
Merci beaucoup pour cette
Merci
interview.
À vous. La cosa no es que tú pienses y que yo diga.
La cosa no es que repita lo que tú decidas. Raoul passe au micro d'Olivier Rouget du service culture de RFI.
Reportage France.
Gala, Golden, Pink Lady, près d'1,5 million de pommes sont récoltées en France chaque année. La France, c'est le troisième producteur en Europe, mais en culture conventionnelle, c'est aussi un des fruits qui reçoit le plus de traitements phytosanitaires. Plus de 30 insecticides, fongicides ou herbicides sont pulvérisés sur les fruits en moyenne. L'objectif européen et français est donc de réduire de moitié l'usage de ces pesticides d'ici 2030. Des chercheurs de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, tentent donc de développer de nouvelles méthodes. Reportage de Jeanne Richard.
Il faut manger.
Bien rouge et sucrée, mais aussi résistante à la tavelure, l'une des principales maladies du pommier, la pomme Story est le fruit d'une belle histoire. Déjà plantée en Europe, elle commence à s'exporter aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Chili. Et c'est dans les vergers de l'INRAE à Beaucouzet, dans l'ouest de la France qu'elle est née, dans le programme de sélection génétique du chercheur François Laurence.
On essaie de contribuer à la création de nouvelles variétés qui vont être moins traitées. On fait des croisements et puis on va sélectionner petit à petit les combinaisons qui rendent la variété plus résistante. Et ensuite, ça va être planté dans des vergers comme ici. Là. Ça fait plusieurs années de croisements avant d'obtenir une variété.
Il a fallu planter des milliers de pépins de pommes et plus de 20 ans pour trouver Story. Sa résistance à la tavelure n'est que partielle, mais elle permet déjà de réduire de 30 à 40% les traitements contre le champignon qui attaque les fruits et les feuilles. C'est un des leviers pour remplacer définitivement les pesticides. Claude Courreau, ingénieur, participe aussi au projet Cap Zéro Phyto.
On n'y arrivera pas avec un produit miracle qui va remplacer un phyto. Il va falloir additionner tout un tas de différentes pratiques, la génétique, des nouvelles variétés plus résistantes, les UV, c'est tout nouveau. Donc on va cumuler tout un tas de techniques pour arriver à une solution qui va remplacer le phyto.
Les chercheurs ont en effet découvert que s'ils éclairent les pommiers avec des rayons UV, les plantes activent leur défense naturelle pour se protéger des coups de soleil. Elles seront un peu mieux préparées en cas d'agression, estime Mathieu Gaucher, ingénieur à l'INRAE.
L'idée, ça va être d'activer l'immunité de la plante avant que la maladie arrive, pour qu'elle se protège d'elle-même contre les maladies.
Pour cela, en plus des rayons UV, ils testent aussi divers produits stimulateurs des défenses des plantes dans les immenses serres du centre de recherche ou directement dans les vergers.
Donc il y a par exemple le phosphonate de potassium qui est un minéral, du limocide, donc c'est une huile essentielle d'orange douce, des extraits de plantes comme des parois de tomates qui vont, lorsqu'appliquées sur d'autres plantes, vont activer les défenses de la plante.
Toutes ces pistes de recherche semblent prometteuses, mais il faudra encore plusieurs années de tests pour déterminer quelle combinaison de leviers sera suffisamment efficace pour remplacer les pesticides chimiques délétères pour la santé et l'environnement. Surtout, il faudra que ces nouvelles techniques soient abordables pour inciter les agriculteurs à les adopter, sans alourdir encore la pression sur un métier en crise.
Un reportage signé Jeanne Richard, RFI, 9h19, à Nouméa.
Le journal des Outre-mer.
avec nos confrères de la Première. Au troisième jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, s'est entretenu ce lundi avec le nouveau président du gouvernement local. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. L'occasion pour Manuel Valls de réaffirmer le soutien financier de l'État à la grande satisfaction d'Alcide Ponga. Écoutez le chef de l'exécutif calédonien au micro de Maurice Violton.
Je suis serein sur cette partie-là, qui est une partie importante aussi pour éviter un effondrement économique de la Nouvelle-Calédonie et pour que la question politique puisse se passer dans un contexte où c'est pas le chaos social, parce que si c'est le chaos social et le chaos économique, je vois pas comment on peut discuter de politique si c'est le chaos social ou économique. Et c'est déjà très dur pour beaucoup. Si on peut éviter l'effondrement, il faut le faire et l'État nous accompagnera.
Dans l'après-midi, l'ancien Premier ministre s'est entretenu avec toutes les forces politiques du Caillou, qu'elles soient indépendantistes ou loyalistes, des entretiens bilatéraux pour commencer, avant, en principe, que tout le monde se réunisse dans une seule et même salle. Marguerite Poigoun.
Ce qui est prévu, ce sont 4 demi-journées de travail sur différents thèmes mercredi et jeudi pour parvenir probablement à un compromis vendredi. Pour Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble, la présence de toutes les formations politiques est un signal fort. Il salue une méthode de travail structurée qui permet d'aborder les questions les uns avec les autres. Donc mercredi et jeudi, comme je l'ai annoncé plus haut, seront consacrés aux négociations avec tout le monde à la table des discussions. L'important pour chacun est que le temps est compté, il y a urgence et qu'il faut avancer.
La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, ils sont nombreux, les territoires ultramarins, à vivre sur un volcan ou à proximité. Volcan d'ailleurs encore actif dans la plupart des cas. Et pourtant, selon un rapport du BRGM, Bureau des Recherches Géologiques et Minières, la géothermie n'y serait pas suffisamment exploitée, ou même pas du tout, à l'exception notable de la Guadeloupe. Éric Lefebvre.
En effet, la Guadeloupe est le seul territoire ultramarin à exploiter la géothermie avec sa centrale de Bouillante. Elle couvre environ 6% des besoins en électricité de l'île et 30% d'ici une dizaine d'années en principe. Sur l'île Sœur, le potentiel géothermique est également prometteur, mais reste encore à confirmer par des forages d'exploration. Même chose à La Réunion et à Mayotte. Alors, pour accélérer le développement de cette source d'énergie dans ces territoires, le Bureau de Recherche Géologique et Minière insiste sur la nécessité d'alléger les procédures administratives et de sécuriser les investissements. Mais la géothermie ne s'arrête pas à la production d'électricité. Les possibilités sont nombreuses. La chaleur venue des entrailles de la Terre peut en effet être utilisée également comme source de froid, de thermalisme ou encore de séchage. Dans l'optique d'atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2050, la géothermie apparaît donc comme un atout non négligeable et une voie incontournable pour les territoires ultramarins.
On termine avec cette information incroyable mais vraie. Il n'y aura bientôt plus d'avocats à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Et on ne parle pas là évidemment des fruits de l'avocatier, mais des indispensables auxiliaires de justice à très brève échéance, portés disparus dans la capitale de l'Ouest guyanais. Reportage Pierre Tréfou.
Arrivé en juillet 2023, maître Bintou Diarra avec maître Rosenberg sont les deux seuls avocats en poste fixe dans la capitale de l'Ouest guyanais. Mais en février 2024, son confrère décide de retourner à Cayenne, laissant l'avocate seule.
On est garde à vue quand on est toute seule, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous donner un exemple. Et pas que sur Saint-Laurent, sur tout l'Ouest, notamment Mana, Patou. Faut savoir aussi que pour les mineurs, l'avocat est obligatoire en garde à vue, donc il faut y aller. Et l'été, quand moi je suis pas là et que je suis en congé, c'est quand même moi qu'on appelle parce qu'il y a personne d'autre.
En Guyane, seulement 80 avocats sont présents dans le territoire. C'est plus de 4 fois moins qu'en Corse, par exemple. Une situation inquiétante qui reflète celle du territoire. Interrogé, le parquet n'a pas souhaité s'exprimer. À Saint-Laurent-du-Maroni, une cité judiciaire doit sortir de terre fin 2026. Mais le problème restera le même. Sans avocat, les Guyanais de l'ouest du territoire seront toujours sans défense.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand et bonne soirée à vous également.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Que faire en cas de maux de ventre? Quand faut-il aller consulter? C'est le Conseil Santé de Caroline Paré avec le professeur Christophe Cellier.
Professeur Christophe Cellier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service d'hépato-gastro-entérologie et endoscopie digestive à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. En termes de troubles digestifs, quels sont les symptômes qui doivent pousser à consulter impérativement?
Alors, les douleurs digestives, c'est un symptôme extrêmement fréquent, hein, qui peut avoir de multiples causes, des causes graves et des causes bénignes. Alors, les symptômes qui doivent pousser à consulter, à voir un médecin, c'est essentiellement s'il y a ce qu'on appelle des symptômes d'alarme. Par exemple, au niveau digestif haut, quand vous avalez et que ça bloque, là, c'est plutôt inquiétant, ou quand vous allez avoir des troubles digestifs avec des saignements dans les selles, qui peuvent par exemple venir au niveau de l'anus, et si ça se réveille, quand vous avez des pertes de poids, quand ça survient la nuit en période de sommeil, ça c'est des symptômes qui peuvent nécessiter de voir un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de troubles graves. Et puis, il y a aussi les antécédents dans la famille qui peuvent faire qu'on consulte plus vite. Par exemple, si dans votre famille, il y a eu des cancers du côlon ou d'autres cancers précocement dans la vie.
Merci, professeur Cellier. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, l'actualité des maladies émergentes, Mpox, Marburg, Ebola, mais aussi la grippe aviaire, plusieurs flambées épidémiques qui sont loin de faire les gros titres 5 ans après la pandémie de Covid-19. On va parler du suivi de la surveillance de ces périls infectieux à l'heure des bouleversements politiques aux États-Unis qui rebattent les cartes de la santé mondiale. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré et à tout à l'heure. C'est ainsi que s'achève cette édition de 24 heures en France. Merci à Fabrice Violet qui m'a accompagné à la réalisation, à Nicolas Brousse à la rédaction en chef dans quelques instants. Place à Afrique Soir avec Zéphirin Quadio. Mais d'abord, on fait un petit détour sur la bourse à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur un tout petit rebond de 33 points seulement, revenant à 43 461 et le Nasdaq cède encore 237 points pour clôturer à 19 287. Wall Street se pose beaucoup de questions, notamment sur le caractère durable du boom de l'intelligence artificielle. Un analyste de la maison TD Cowen affirme que Microsoft est en train d'abandonner des baux pour la location de centres de traitement de données. Certains ont conclu que Microsoft envisage de ralentir ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Le cours de Microsoft chute de près d'1%. Beaucoup attendent mercredi soir les résultats trimestriels de Nvidia, le leader des puces pour l'intelligence artificielle. Si la direction du groupe californien est toujours aussi euphorique sur la demande pour ses composants, le marché serait rassuré. Apple, en tout cas, ne lève pas le pied dans l'intelligence artificielle. Au contraire, la firme annonce 500 milliards de dollars d'investissement sur 4 ans dans une usine géante, notamment au Texas, pour des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. On note une belle hausse du cours de Nike, le géant des articles de sport, fait l'objet de commentaires favorables d'un analyste de la maison Jefferies. Berkshire Hathaway grimpe aussi nettement dans la foulée de l'annonce d'un bond de 71% des profits de la holding de l'investisseur légendaire Warren Buffett. Le rendement du T-bond à 10 ans retombe à 4,40. L'euro remonte à peine à 1,0463. Le baril américain de pétrole avance de moins d'1% à un peu moins de 71 $. Le Dow Jones grappille moins de 0,1%. Le Nasdaq chute d'1,2%.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Couleur du son et RFI Talent présente Naïssam Jalal en concert. À l'occasion de la sortie de son dernier album Healing Rituals, autrement dit Rituel de guérison, retrouvez la flûtiste franco-syrienne